Le signe des quatre, une aventure de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Mais il était dit que je n'aurais jamais longtemps la chance pour moi. Soudain, sans signe précurseur, la grande révolte éclata. Le mois précédent, l'Inde était aussi tranquille et paisible en apparence que le Surrey ou le Kent. 30 jours plus tard, le pays était un véritable enfer livré à 200 000 diables noirs. Évidemment, vous connaissez la question, messieurs, mieux que moi, probablement car la lecture n'est pas mon fort. Je sais seulement ce que j'ai vu de mes propres yeux. Notre plantation était située à Mutra, au bord des provinces du Nord-Ouest. Nuit après nuit, le ciel s'embrasait à la lueur des bungalows en flammes. Jour après jour, de petites caravanes d'Européens passaient à travers notre propriété avec femmes et enfants, en route pour Agra où se trouvaient les troupes les plus proches. Abel White était un homme têtu. Il s'était mis en tête que les proportions de la révolte avaient été exagérées et que celle-ci s'éteindrait aussi soudainement qu'elle s'était déclenchée. Assis dans sa véranda, il sirotait tranquillement son whisky et fumait ses cigares tandis que le pays flambait autour de lui. Thomson et moi, nous sommes restés avec lui, bien sûr. Thomson et sa femme s'occupaient de l'économat et tenaient les livres. Et puis un beau jour, vint la catastrophe. J'avais été inspecter une plantation assez lointaine. En revenant, je m'approchai pour voir ce que c'était. Je devins glacé jusqu'aux os en reconnaissant la femme de Danson, complètement lacérée et à moitié dévorée par les chacals et les chiens sauvages. Un peu plus loin, sur la route, je trouvai Danson lui-même, étalé le visage dans la poussière, un revolver vide dans la main. Devant lui, il y avait 4 corps de 6 pailles les uns sur les autres. Je tirai sur mes brides, ne sachant plus de quel côté me diriger, lorsque je vis une épaisse fumée s'élever du bungalow d'Abel White. Les flammes commençaient même à passer à travers le toit. Je sus alors que je ne pouvais plus être d'aucune aide à mon patron et que je perdrais ma vie à me mêler de l'histoire. D'où je me tenais, je pouvais voir des centaines de ces démons noirs portant encore leurs manteaux rouges sur le dos qui dansaient et hurlaient autour de la maison en flammes. Quelques-uns me montrèrent du doigt et 2 balles sifflèrent à mes oreilles. Je partis à travers les rizières et tard dans la nuit, j'arrivai en sécurité à l'intérieur d'Agra. Sécurité toute relative d'ailleurs. Le pays entier s'agitait comme un essaim d'abeilles. Chaque fois qu'ils pouvaient se rassembler, les Anglais se contentaient de tenir le terrain sous le feu de leurs armes. Partout ailleurs, c'étaient des fugitifs sans défense. Le combat était inégal, des millions contre des centaines. Le plus cruel de l'affaire était que ces hommes contre qui nous luttions, fantassins, cavaliers, artiseurs, faisaient tous partie des troupes spécialement sélectionnées, entraînées et équipées par nos soins, et qui maintenant utilisaient nos propres armes et jusqu'à nos propres sonneries de clairons. À Agra se trouvait le 3e fusilier du Bengale. Quelques skis, 2 sections de cavalerie et une batterie d'artillerie. Un corps de volontaires composé de marchands et d'employés avait été constitué. Je m'y fis admettre, moi et ma jambe de bois. Nous effectuâmes une sortie pour rencontrer les rebelles à Chagunj, au début de juillet, et nous les repoussâmes pour un temps, mais la poudre vint à manquer, et il nous fallut nous replier dans la ville. Les pires nouvelles nous arrivaient de tous les côtés. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant, car si vous regardez sur une carte, vous verrez que nous étions au cœur de l'insurrection. Lucknow est situé à peu plus de 160 km à l'est et Cap Nord à environ la même distance du sud. Aux quatre points cardinaux, ce n'était que torture, meurtre et brigandage. Agra est une grande ville bondée de fanatiques et de farouches adorateurs de toute croyance. Parmi les ruelles étroites et tortueuses, notre poignée d'hommes était inefficace. Le commandant décida donc de nous faire traverser la rivière et de prendre position dans le vieux port d'Agra. Je ne sais si l'un de vous, messieurs, a jamais lu ou entendu quelque chose se rapportant à cette vieille citadelle. C'est un endroit très étrange, le plus étrange que j'ai connu. Et pourtant, j'ai été dans bien des coins bizarres. Tout d'abord, ses dimensions sont gigantesques, plusieurs hectares. Il y a une partie moderne dans laquelle se réfugient garnison, femmes, enfants, provisions et tout le reste, sans pourtant épuiser toute la place. Mais ce coin-là n'est encore rien à côté de la dimension des vieilles parties du fort. Personne n'y va. Elles sont abandonnées aux scorpions et aux mille pattes. C'est plein de grands halls déserts, de passages tortueux et d'un long labyrinthe de couloirs serpentant dans toutes les directions. Or, on s'y perdrait si facilement qu'il était rare que quelqu'un s'y aventurât. De temps en temps, pourtant, un groupe muni de torches partait en exploration. Le fleuve coule devant le vieux fort et le protège, mais sur l'arrière et les côtés, il y avait de nombreuses portes, aussi bien dans la vieille citadelle que dans la nouvelle. Il fallait toutes les garder, bien entendu. Nous manquions d'hommes. Il y en avait à peine assez pour surveiller les angles des remparts et servir les pièces d'artillerie. Il était donc impossible d'organiser une garde conséquente à chacune des innombrables poternes. Un détachement de réserve fut organisé au milieu du fort et chaque porte fut placée sous la garde d'un homme blanc et de deux ou trois indigènes. Je fus chargé de la surveillance une partie de la nuit d'une petite poterne isolée au sud-ouest. Deux soldats skis furent placés sous mon commandement. Ma consigne était de faire feu de mon mousqueton en cas de danger. La garde centrale viendrait aussitôt à mon aide. Mais comme le détachement était à plus de 200 pas, distance coupée de corridors et de passages sinueux, je doutais fort qu'il puisse arriver à temps pour me secourir en cas d'une véritable attaque. Eh bien, j'étais assez fier d'être chargé de cette petite responsabilité. Dame, j'étais une toute nouvelle recrue et infirme par-dessus le marché. Pendant deux nuits, j'ai monté la garde avec mes Punjobis, deux grands gaillards au regard farouche, Mohamed Singh et Abdullah Khan. Ainsi se nommaient-ils, étaient deux vétérans de la guerre et ils s'étaient battus contre nous à Chilianwala. Ils parlaient assez bien l'anglais, mais je ne pouvais en tirer grand-chose. Ils préféraient se tenir à l'écart et jacasser entre eux toute la nuit dans leur étrange dialecte sikh. Quant à moi, je me tenais au-dessus du portail, regardant le large serpentin du fleuve s'étalant en contrebas, ainsi que les lumières clignotantes de la grande ville. Le roulement des tambours et des tam-tams, les cris et les hurlements de rebelles ivres d'opium et de vacarme se chargeaient de nous rappeler la nuit durant le danger qui nous guettait de l'autre côté du fleuve. Toutes les deux heures, un officier faisait la ronde pour s'assurer que tout allait bien. Pour ma troisième nuit de garde, le temps était sombre. Il tombait une pluie fine et pénétrante. C'était pénible. J'essayais à maintes reprises d'engager la conversation avec les sikhs, mais sans grand succès. À 2 heures du matin, la ronde passa, dissipant un moment la fatigue de la nuit. Désespérant de faire parler mes deux hommes, je sortis ma pipe et posai mon mousqueton à côté de moi pour gratter une allumette. En un instant, les deux sikhs furent sur moi. L'un s'empara de mon arme et la pointa sur moi. L'autre brandit un grand couteau près de ma gorge, jurant entre ses dents qu'il m'égorgerait si je faisais un pas. Ma première pensée fut qu'ils étaient d'accord avec les rebelles et que c'était le commencement d'un assaut. Si notre porte passait entre les mains des cipayes, le fort tombait. Quant aux femmes et aux enfants, ils seraient traités comme à Kampor. Peut-être allez-vous penser, messieurs, que je veux me donner un beau rôle. Je vous jure pourtant que, pensant à ce que serait un tel massacre, j'ouvris la bouche, bien que sentant la pointe du couteau sur la gorge, avec la ferme intention de crier, ne serait-ce qu'une fois, pour alerter la garde centrale. L'homme qui me tenait sembla lire mes pensées. Au moment où je prenais mon souffle, il murmura « Pas un bruit, rien à craindre pour le fort, il n'y a pas de chien de rebelle de ce côté. » Sa voix sonnait sincère. Je savais que si j'élevais la voix, j'étais un homme mort. Je pouvais le voir dans les yeux bruns de l'homme. J'attendis donc en silence pour savoir ce qu'il me voulait. « Écoute-moi, Saïb, » dit Abdullah Khan, le plus grand et le plus féroce des deux. « Maintenant tu vas choisir, ou avec nous, ou la mort. La chose est trop importante pour nous. Nous n'hésiterons devant rien. Ou bien tu es avec nous, cœurs et âmes, ou bien tu es avec nous, cœur et âme, et tu le jures sur la croix des chrétiens, ou bien nous jetterons ton corps dans le fossé et nous rejoindrons nos frères dans l'armée rebelle. Il n'y a pas d'autre alternative. Que décides-tu? La vie ou la mort? Nous ne pouvons pas te donner plus de 3 minutes car il faut que tout soit fini avant la prochaine ronde. Comment puis-je décider? Dis-je. Vous ne m'avez pas dit ce que vous voulez de moi. Mais la sécurité de la forteresse est en jeu. Alors vous pouvez m'égorger tout de suite. Je préférais cela. On n'a absolument rien contre la citadelle, répondit Khan. Nous te demandons d'œuvrer avec nous pour la même chose qui amène ici tes compatriotes. Nous te demandons d'être riche. Si tu acceptes d'être avec nous ce soir, nous te jurons sur la lame du poignard et par les 3 vœux qu'aucun sikh n'a jamais transgressé, que tu auras une part équitable du butin. Il te reviendra 1/4 du trésor. Nous ne pouvons mieux te dire. De quel trésor s'agit-il donc? Demandai-je. J'ai envie autant que vous deux d'être riche. Montre-moi ce qu'il faut faire. Alors tu vas jurer sur les ossements de ton père, sur l'honneur de ta mère, sur la croix de ta foi, de ne parler contre nous ou de lever la main sur nous ni maintenant ni plus tard. Je le jurerai. « À la condition que le fort ne soit pas en danger, dis-je. Alors mon camarade et moi te jurerons que tu auras 1/4 du trésor, lequel sera divisé également entre nous 4. Mais nous ne sommes que 3, dis-je. Non, il y a la part de Dost Akbar. J'ai le temps de t'expliquer ce dont il s'agit en l'attendant. Tiens-toi à la poterne, Mohamed Singh et Felgué. « Je vais tout te raconter, Saïb, parce que je sais que les Européens tiennent leur serment et que je puisse avoir confiance en toi. Si tu avais été un de ces vils hindous et quand bien même tu aurais prêté serment sur tous les faux dieux de leur temple, mon couteau serait entré dans ta gorge et ton corps précipité dans le fleuve. Mais le sikh connaît l'anglais et l'anglais comprend le sikh. Écoute donc ce que je vais te dire. » Il existe dans les provinces du Nord un raja qui possède de grandes richesses, bien que ses terres soient peu étendues. Il en doit la plus grande partie à son père, mais il en a accumulé lui-même, car il est avare et il préfère entasser son or plutôt que de le dépenser. Quand commença la rébellion, il s'arrangea pour rester en bons termes avec le lion et le tigre, avec les cipayes et les anglais. Bientôt pourtant, il lui sembla que les hommes blancs allaient être chassés. De l'Inde entière ne parvenaient des nouvelles que de leur défaite et de leur mort. Mais c'était un homme prudent, et il s'arrangea de telle sorte que, quel que fût le cours des événements, il ne perde plus la moitié de son trésor. Il garda l'or et l'argent dans les caves de son palais. Mais il mit dans un coffre de fer ses pierres les plus précieuses et ses plus belles perles. Il les confia à un serviteur fidèle qui devait se présenter ici comme un marchand et garder la cassette en attendant que la paix soit rétablie. De cette manière, si les rebelles triomphaient, il lui resterait son or, mais si les Anglais reprenaient le pouvoir, ses joyaux lui resteraient. Après avoir ainsi divisé son magot, il se rangea du côté des cipayes qui étaient en force aux frontières de sa province. Remarque bien, Saïb, qu'en faisant ainsi, ces biens revenaient de droit à ceux qui sont restés fidèles. Ce prétendu marchand, qui a voyagé sous le nom de Hachemet, est maintenant dans la ville d'Agra. Il désire pénétrer dans la forteresse. Il voyage en compagnie de mon frère de lait, Dost Akbar, qui connaît son secret. Celui-ci lui a promis de le conduire cette nuit à une des poternes latérales du fort. Il a choisi la nôtre. Ils se présenteront donc d'une minute à l'autre. L'endroit est désert et personne n'est au courant de sa venue. Le monde n'entendra plus jamais parler du marchand Hachemet. Mais le grand trésor du Raja sera partagé entre nous. Qu'en dis-tu, Sahib ? Dans le Vorsersteier, la vie d'un homme semble sacrée. Mais on ne raisonne plus sous le même angle lorsque le feu et le sang vous cernent de tous côtés et que la mort vous guette à chaque pas. Que le marchand vive ou soit assassiné m'importait aussi peu que le destin d'un insecte. En revanche, l'idée du trésor me conquit. J'imaginais déjà tout ce que je pourrais faire en rentrant au pays. La famille regarderait avec étonnement ce vaurien qui rentrait des Indes avec les poches pleines d'or. Ma décision fut vite prise, mais Abdullah Khan, pendant que j'hésitais, tenta de me convaincre. « Réfléchis, Sahib, que si cet homme est pris par le commandant, il sera pendu ou fusillé et ses joyaux seront confisqués par le gouvernement. Personne ne sera plus riche d'une roupie. Mais si nous le capturons, nous confisquerons par nous-mêmes le trésor. Les joyaux seront aussi bien dans nos mains que dans les coffres du gouvernement. Il y en a assez pour faire de chacun de nous un homme riche et puissant. Personne ne connaît l'affaire. Nous sommes coupés du reste du monde. Quel risque courons-nous ? Allons, Sahib, dis-moi maintenant si tu es avec nous ou si nous devons te compter comme un ennemi. Je suis avec vous, cœur et âme, dis-je. Voilà qui est bien, répondit-il en me tendant mon mousqueton. Tu vois que nous avons confiance en toi. Je sais que ton serment, pas plus que le nôtre, ne peut être délié. Il ne nous reste plus qu'à attendre la venue de mon frère et du marchand. Ton frère, c'est donc ce que tu vas faire, demandai-je. C'est lui qui a conçu ce plan. Allons à la porte partager le guet avec Mohamed Singh. La pluie tombait toujours sans interruption. La mousson commençait, des nuages lourds et sombres dérivaient à travers le ciel. Il était difficile de voir à plus d'un jet de pierre. Un fossé descendait devant la porte que nous gardions, mais il était presque asséché par endroits et on pouvait le franchir facilement. Je trouvais bizarre d'être là à côté de ces deux sauvages punjobis attendant un homme qui courait à la mort. J'aperçus soudain, de l'autre côté du fossé, la lueur d'une lanterne voilée. Elle disparut parmi les monticules, puis redevint visible. Elle se rapprocha de nous. « Les voici, » m'exclamai-je. « Tu lanceras le qui-vive, Sahib, comme à l'ordinaire, » chuchota Abdullah. « Ne lui donnons aucune cause d'inquiétude. Envoie-nous à leur rencontre. Nous nous occuperons de lui pendant que tu resteras ici à monter la garde. Tiens-toi prêt à dévoiler la lanterne afin que nous soyons sûrs que c'est bien l'homme. » La lumière s'avançait en vacillant, s'arrêtant parfois, puis revenant à nouveau. Je pus enfin distinguer deux silhouettes de l'autre côté du fossé. Je les laissai dégringoler la rive abrupte, patauger à travers la mare et remonter à demi l'autre versant avant de lancer le qui-vive. « Qui va là ? » dis-je d'une voix étouffée. « Des amis, » répondit quelqu'un. Je découvris la lanterne, jetant sur eux un filet de lumière. Le premier était un sigue gigantesque dont la barbe noire descendait presque jusqu'à la taille. Ailleurs que dans les cirques, je n'ai jamais vu d'homme aussi grand. Son compagnon était petit, rond et gras, porteur d'un grand turban jaune sur la tête. Et à la main, il portait un paquet enveloppé d'un châle. Il tremblait de peur. Ses mains frémissaient comme s'il avait la fièvre, et sa tête n'arrêtait pas de tourner de tous côtés, ses petits yeux vifs aux aguets, à la manière d'une souris s'aventurant hors de son trou. J'eus froid dans le dos à la pensée de tuer cet innocent, mais la pensée du trésor me redonna un cœur de marbre. Lorsqu'il s'aperçut que j'étais européen, il poussa une petite exclamation de joie et se mit à courir vers moi. « Ta protection, Sahib, » haleta-t-il, « ta protection pour le malheureux marchand d'Ashmet. J'ai voyagé à travers Rajputana afin de me mettre sous la protection du fort d'Agra. J'ai été volé et battu et trompé parce que j'étais l'ami des Anglais. Béni soit cette nuit qui amène à nouveau la sécurité pour moi et mes pauvres biens. « Qu'y a-t-il dans ce paquet ? » demandai-je. « Une boîte en fer, » répondit-il. « Elle ne contient qu'une ou deux affaires de famille, des choses insignifiantes qui n'ont de valeur pour personne, mais que je serais désolé de perdre. Cependant, je ne suis pas un mendiant, et je te récompenserai, jeune Sahib, et ton gouverneur aussi, s'il me donne l'abri que je demande. » Je n'étais plus assez sûr de moi pour lui parler encore. Plus je regardais ce visage bouffi et apeuré, plus il me semblait difficile de le tuer ainsi de sang-froid. Il fallait en finir au plus vite. « L'amenez-le à la garde principale, » dis-je. Les deux sikhs l'encadrèrent, tandis que le géant suivait derrière. Ils s'engagèrent ainsi dans le sombre passage. Jamais homme ne fut plus étroitement enserré par la mort. Je demeurai sur les remparts avec la lanterne.